Soit de l'expérience comme dessinateur ou chargé de projet, veux faire du télétravail et être en congé les vendredis après-midi? Postule au carrière.fr.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, il s'en brasse des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
C'est la preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Si tu crois que
des invités percutants.
Ben oui, petit coup de commence, le martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Capricorne.
Je suis vierge.
Ça, on savait.
Facile.
une radio spéciale. Boulevard 102.1. La radio spéciale. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Merci d'être là en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble pendant ce podcast-là, puisque j'ai le plaisir de jaser avec Simon Laberge. Salut, mon ami.
Yes, comment ça va, toi?
Ça va très bien. Courtier immobilier, toujours une passion pour toi?
Absolument.
Ouais, ça fait combien d'années que tu fais ça?
Là, je m'en vais faire... au mois de mars, ça va faire 17 ans complet.
17 ans?
Oui.
OK. Puis est-ce que tu te vois encore dans ce merveilleux monde-là pour les 10-15 prochaines années?
Écoute, moi, je suis toujours qu'il faut que tu sois heureux dans la vie. Là. Présentement, je suis vraiment heureux qu'est-ce que je fais. Ouais. Je veux pas m'avancer. Parce qu'au début, je m'étais dit, je vais faire ça une couple d'années, voir comment ce que ça se passe. Et puis, là, tu vois, je suis encore là. Je vis toujours un peu au jour le jour. Ça a l'air drôle à dire parce que tout le monde me voit comme quelqu'un de bien structuré. Puis, je suis un gars qui est passionné. Fait que si un jour, ça fait plus, je pense pas que ça va être d'un matin ou dans la prochaine année, mais si un jour, ça fait plus, ben, je vais peut-être prendre une réflexion puis je vais revenir à... Mais tu sais, jamais je vais délaisser l'immobilier pour bon puis dire je voudrais plus faire qu'est-ce que je fais présentement. Mais là, je le fais vraiment intensément avec passion. Je pense pas que je vais faire ça encore pendant un autre 17 ans.
Mais en même temps, t'as placé tes pions pour... tu sais, si ça te tente plus d'être courtier, tu peux continuer de gérer tes entreprises, tu peux continuer de gérer tes immeubles, puis au bout de 6 mois, tu peux revenir sans aucun problème. Je trouve que le setup que t'as mis en place là, avec ton équipe, tes entreprises et tout ça, c'est une belle façon de faire. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec les collègues sur l'heure du midi dans Marceau le midi, puis on parlait des passions dans la vie. Puis tu sais, si on peut faire de notre passion notre métier, c'est encore mieux. Puis si on peut être amoureux de notre métier, c'est encore mieux. On n'a jamais l'impression de travailler, tu sais. Et là, des gens qui disent « Ah, mais là, Yann, toi, ça va bien tes affaires. » Oui, mais t'as peu. Là. Moi, je travaille à 2-3 places différentes. Mm-hmm. Tout ce que je fais, j'aime ça parce que sinon, je le ferais pas. Y a-tu des jobs que j'ai fait, Simon, que j'ai détesté? Ben je peux te le dire parce que je l'ai dit sur l'heure du midi. Hey, je faisais les vidanges chez Ronald McDonald. Sur la rue Saint-Jean, ils n'ont pas de bac à vidange. Ce qui fait en sorte que tout est conservé dans un genre de chute, dans une genre de chute à déchets.
Okay.
Puis il y a un compacteur qui est en bas. Puis c'est une machine qui compacte les sacs. Puis on met ça dans des bacs gris. Et c'était 2 fois par semaine. Ce que je faisais, c'est que, bon, avant l'école, je partais. Je m'en allais chez Ronald McDonald. Je revenais, il était autour de 4h du matin. Puis je pesais sur le piton, puis là, je remplissais les bacs. Après ça, je montais les bacs sur le convoyeur pour mettre ça aux abords de la rue Saint-Jean. Les gars de la ville passaient, vidaient les bacs, je redescendais les bacs.
Mais s'il y avait de l'ouvrage temps plein pour ça?
Je les lavais. C'était 2 fois par semaine.
Okay.
C'était moi qui étais chargé de ça quand j'avais 15-16 ans. Puis je trouvais ça cool parce que tu sais, j'étais pas quelqu'un qui était extrêmement riche. Là. Puis le déjeuner était fourni. Fait qu'en plus d'être payé pour ce que je faisais, après ça, ils me payaient le déjeuner. Puis après ça, je pouvais aller à l'école. Tu sais, des fois, j'ai l'impression de parler du tiers-monde. Mais non, c'était ça dans le temps. On gagnait genre 6 piastres de l'heure. Mais ça, c'est une job. L'évidence, j'ai pas nécessairement trippé. Là. Mais je le faisais pour les bonnes raisons.
Ton déjeuner, c'était-tu un avantage imposable? Ou
Hey, tu sais quoi? Je pense pas. Mais j'espère que le ministère du revenu m'écoute pas, mais je pense pas que c'est un avantage qui est imposable. D'après moi, il marquait même pas ça sur nos pays.
Ben là, de toute façon, oui, c'est un peu comme une perte. Là, qui, ouais. Les autres, il y a un employé qui mange un burger dans la journée, puis ça passe par là.
Ouais. Les gens qui décident de s'en aller en immobilier parce que ils trouvent que le métier de courtier, ça a l'air d'un bon métier et tout ça, il y en a combien qui restent après un an? Parce que je vous regarde aller, c'est, ça a de l'air tough en sacrifice.
Là. Nous autres, on a vraiment une bonne rétention, un haut taux de succès, si on veut, autant via Capital Équipe puis Équipe La Berge. Écoute, ils sont beaucoup mieux formés, les courtiers, que ce que l'époque que moi je l'ai fait. Quand je l'ai fait, après 2 ans, je pense qu'il en restait 1 ou 2 sur 10. Puis,
OK, c'était 20 % là.
Ah, à peu près loin, c'est ça. Puis tu vois, moi, la cohorte que j'ai été, on s'est vraiment tissé serré dès le début. Puis à ma connaissance, c'est une des cohortes qui a eu le plus de taux de succès. Puis encore de gens qui sont actifs, pas toujours, tu sais, peut-être pas comme moi je le suis, là, parce mm-hmm. qu'il y en a qui ont commencé à différents. Il y a des gens qui ont commencé après déjà une seconde carrière, si on veut. Là. Mais c'est ça, il y a vraiment un haut taux de succès, nous autres, à Via Capital Équipe. On a une belle formation. On a un beau suivi qui est fait avec les courtiers dans tout ça. Mais dans l'industrie, il reste que c'est quand même assez tough.
Parce que ce métier-là a changé. Là. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je regardais les courtiers. C'était tous des gens qui avaient de l'air en fin de vie sur le soluté. Tu sais, regarde, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Est-ce que moi, jamais j'aurais pensé être courtier? Puis, à un moment donné, je sais pas, peut-être parce que l'ancienne garde est partie, c'est comme des jeunes qui ont pris, qui ont pris la place. Puis, ça semblait avoir dynamisé un peu l'affaire. Puis, par la suite, vous êtes comme devenus des stars de télé. Il y en a qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont commencé à faire des émissions spécialisés sur l'immobilier. Puis là, tu vois des batchs de jeunes qui arrivent sur le marché. Je me dis, hey, sérieusement, ces gens-là, sont-tu prêts à travailler comme il faut travailler quand tu débutes en immobilier? Tu sais, je vois aller, là. De temps en temps, je passe à ton bureau, puis il y en a qui prennent ça vraiment, vraiment au sérieux, puis sont là du matin jusqu'au soir.
Oui, bien là, ça, justement, là, j'en ai quelques-uns là, qui ont commencé récemment, là, puis... Il y en a, là, sont vraiment impressionnants. Tu sais, j'en ai un nouveau, là, un moment donné, il dit, demain, à 6h30, là, il dit, le bureau va-tu être ouvert? Ben, on ferme à 9h. Non, il dit, demain matin. Là, j'ai dit, non, demain matin, à 6h30, le bureau, tu peux venir au bureau, oui. Mais il n'y aura pas de personnel qui va être là avant 7h, 7h30.
Il y a le monsieur qui fait le ménage qui est là.
C'est ça. Officiellement, ça rouvre à 8h la porte, mais il y a toujours du monde qui sont là avant. Mais à 6h30, je pense pas que la porte va être débarrée. Là. Ah, OK, j'ai dit, tu veux faire quoi? Ah, je vais préparer mes affaires, ma journée, puis tout ça. Fait que finalement, pour lui demander, parce que ça, c'était une journée de fin de semaine en passant, c'était un samedi. Fait que là, pour apprendre que samedi matin, lui, à 8h30, il avait été faire du porte-à-porte. J'ai dit là, tu refais plus jamais ça.
Un samedi matin à 8h30?
Ouais, lui, il a compris qu'il manquait de maison dans des secteurs. Fait qu'il a décidé d'aller faire du porte-à-porte dans ces secteurs.
À 8h30.
Ben non, à 8h30, écoute, un samedi matin. Puis là, j'ai dit, avant 10h, j'ai dit, tu vas pas faire de porte-à-porte. Mais il est motivé, puis il y a vraiment ouais. Là, un haut taux là, pour un courtier qui est en ses débuts. Là. Il est incroyable. Sérieux, il me surprend vraiment. Ouais. Puis il a une belle dynamique, tout ça, il est calme, il est posé, il est toujours là pour... il y a de quoi à faire. Il voit l'ouvrage d'avance. Mais c'est ça, l'idée, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent, jeunes ou moins jeunes, qu'on pourrait dire. Puis là, c'est bon, à cette heure, j'ai un permis de courtier. Moi, je vais faire 100 000 par année. Je me promène en BMW. Ouais, c'est ça.
Il voit la grosse maison, il voit la grosse voiture, mais il voit pas toute l'implication que qu'il va y avoir. Il voit pas que le samedi soir puis le dimanche soir, ça se peut qu'ils soient en rendez-vous et non avec leur chum à faire le party.
C'est ça. Mais juste en partant, cette catégorie de gens-là, tu vois qu'ils n'ont pas compris. Je vais faire 100 000 par année, je vais me promener en BMW. Les deux ne marchent pas ensemble. Généralement, si tu fais 100 000 par année, tu ne te promènes pas en BMW. À cette heure, 100 000, c'est rendu les gars de construction, les polices et des enseignants. Ça a l'air normal, là, mm-hmm. Tu comprends? Parce que là, en plus, tu as des dépenses en tant que courtier. Là. Fait qu'au fait, tu vas faire 60 000 par année. Tu sais, les gens, des fois, ils ne regardent pas la dépense. Là, parce que c'est une entreprise, être courtier immobilier. Ouais. C'est pas juste je collecte, puis that's it, je me pavane en bel habit devant des gens qui veulent acheter une maison. Puis là, tu sais, c'est ça qui est le... Mais savais-tu qu'on avait eu notre congrès?
C'était en fin de semaine, je pense.
Ben, c'était au fait lundi pour franchisés propriétaires, puis mardi, il y avait pour tous les courtiers immobiliers. On a eu des conférences vraiment intéressantes. Entre autres, il y avait François Lambert et puis Patrick Renault qui était là, je fais comme de la neuroscience, si on veut.
Mais lui, c'est un spécialiste en vente.
Oui, c'est ça, exact. Il y en a eu plein d'autres, là, mais en tout cas, entre autres, là, des gens qui sont quand même connus. Là. François Lambert, c'est un dragon. Puis c'est ça, fait que ça, c'est vraiment le fun, c'est motivant. Puis là, nous autres, pour les franchisés, ben, c'est voir comment aider nos courtiers, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer nos entreprises, nos secteurs, puis etc. Mm-hmm. C'est une fois par année, ça, plus vers l'automne. Puis aussi un événement qui est au mois de février, ça, c'est pour honorer les performances. Okay. C'est un gala, une fois. On a deux gros événements annuels, plus le golf qui est un. Là, c'est pour s'amuser l'été.
Oui, c'est ça. Mais là, ce que vous aviez lundi et mardi, est-ce que vous avez remporté des prix ou c'était juste des conférences et tout ça?
C'est des conférences, okay, c'est juste de la formation, puis de. Comment je pourrais dire, l'idée de get together pour jaser justement de. Mm-hmm. Projets qu'on a, de certaines propriétés, etc., qui on a sur le marché. Parce que là, tu as des courtiers de tous les coins du Québec. Là, tu peux en avoir du Bas-Saint-Laurent, tu peux en avoir de l'Abitibi, tu en as de Montréal, du Saguenay. Ça, c'était dans Charlevoix, au Manoir-Richelieu. Je sais pas si tu connais ça, c'est une belle petite place. Puis là, c'est cool parce que justement, j'aime toujours ça, aller voir ça un peu à l'automne. Là, c'est les feuilles commencent. Mais tu sais, dans une semaine ou deux, là, ce secteur-là, quand tu y vas, c'est cool. Là.
Ben oui, c'est beau.
Oui, vraiment. Fait que ça, c'est une belle expérience via là, le congrès, c'est vraiment le fun.
Ouais. Quand vous êtes en ville, pour ce qui est des agents immobiliers, là, quand vous êtes en ville, est-ce que vous avez des secteurs déterminés d'avance où les agents immobiliers peuvent aller tout le temps partout sans aucun problème?
Le permis se trouve à être provincial.
Okay.
C'est juste que moi, étant propriétaire d'une franchise, j'ai un secteur où je vais implanter mon bureau. C'est sûr que il n'y a personne qui va m'empêcher d'aller prendre une maison à vendre à Montréal. Mais tu sais, je trouve un bureau ici, nous, on est situé sur Pierre-Bertrand. Puis, je m'en vais à Montréal pensant que là-bas, je vais avoir beaucoup plus de succès. Je mets des affiches, de la publicité, puis je fais seulement travailler Montréal. Ça ne fonctionnera pas. Là. Ça va être mal vu, là, si on veut.
Okay? Ah oui, OK.
Tu ne peux pas faire ça. Tu sais, faut que tu restes. Tu peux en avoir un peu partout, mais ton secteur d'activité principale doit être dans la région où est-ce que ton bureau est.
OK. Donc,
on peut évoluer dans toute la province. Et puis, c'est ça.
Mais c'est-tu plus facile quand t'es à Québec, quand t'es à Montréal, quand t'es à Trois-Rivières ou Drummondville que, je sais pas moi, ceux qui sont en Gaspésie? Ça doit être assez compliqué. Il y a du terrain à couvrir en Gaspésie.
Moi, je te dirais que faut pas que ce soit trop petit ni trop gros. Mm. C'est pour ça souvent que les courtiers qui sont dans des villes comme Québec, on t'a 10-15 minutes de tout là, ici, fait que c'est simple. Tu t'en vas à Montréal. Là, tu vas peut-être bien vendre une maison sur le plateau à 12 millions, là, mais le temps de t'y rendre, puis ça va te prendre la journée. Là.
Ouais.
Tu sais, tu pars, tu dis bon, ben, OK, parfait. Là, je pars de chez nous. Mettons, tu as peut-être des informations à aller chercher au bureau des clients rencontrés. Après ça, tu pars, tu t'en vas visiter cette maison-là. Paf, ta journée est passée. Là.
Ouais.
Ici à Québec, moi, je saute dans l'auto. Je fais 10 minutes, je suis rendu au chute Montmorency. De l'autre côté, je suis rendu au pont. Puis l'autre côté, un autre 10 minutes, je suis rendu à Stoneham. Fait que c'est assez simple. Là. C'est assez simple à travailler. Fait que c'est plus, selon moi, tu vas dire parce que, mais je le vois là, de toute façon par les résultats, c'est plus facile avoir une performance dans une ville comme ici que Montréal, exemple. Puis si je me fie dans le réseau, les premières positions sont souvent style dans le coin de Gatineau, mettons. Tu sais, tu vas avoir plus de Québec. Québec, c'est vraiment la place qui a le plus de okay. performance.
Puis tu commences-tu à avoir du mouvement du côté des investisseurs? Est-ce que les investisseurs veulent se rapprocher de l'endroit où le tramway va passer? Est-ce que ça a déjà commencé, ceux qui commencent à spéculer en disant « Oh boy, cette bâtisse-là, le tramway va passer là. » C'est sûr et certain que ça va avoir de la valeur parce que les gens qui sont là n'auront pas besoin de voiture, exemple. Y a-tu ce genre de personnes-là qui commencent à arriver?
Ça fait déjà un bout de temps que c'est fait. Là, ouais. Sauf que l'idée, c'est que le projet il a tellement changé d'une fois à l'autre qu'on appelle ça justement de la spéculation. Le trajet, écoute, ce qui est vraiment déterminé, d'où vas-tu vraiment en avoir un? Ils sont quasiment rendus là. Ils voient que le plus de concordance. Il y a 30% des gens qui appuient ça selon des sondages. Puis moi, quand que je me promène, c'est peut-être 1 sur 10
ouais.
qui appuie le projet.
Mais tu vois, je parlais avec Paul Saint-Plan-Plamondon sur l'heure du midi, puis je disais, mais je comprends pas à quel point les politiciens se sont éloignés de la population. Là. Une majorité de gens ne veulent pas de ce projet-là. L'élite, les politiciens, entre guillemets, désirent ce projet-là. Une majorité de la population veulent le troisième lien. L'élite, politiciens, entre guillemets, veulent pas du fameux troisième lien. C'est comme si ces gens-là, c'était éloigné de ce que la population voulait, mais en même temps, ils ont l'air tellement déterminés à vouloir le tramway que je peux pas croire qu'à un moment donné, ils ne le bâtiront pas. Là.
Non, et moi, je pense qu'il n'y en aura pas. On a déjà
ça, tu ne le verras jamais, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans tout ça, là, la façon de gouverner, c'est ça date de quand? Hein? Tu sais, je veux dire, à cette heure-là, on arrive, on est assis ici, là, on passe à une idée, on tape sur notre cellulaire, on fait un sondage. T'sais, demain matin, on a un résultat qui est quand même représentatif de ce que les gens peuvent penser. Tu fais juste prendre Facebook, tu dis, bon, ben, c'est quoi votre couleur préférée? Puis à un moment donné, tu vas sortir, tu dis, crème, le rouge, il est peut-être plus aimé que le bleu ou vice-versa. Tu comprends? Juste à aller vers. Tu sais, c'est facile de discuter et avoir des opinions des gens maintenant. Fait que eux, le temps qu'ils prennent une décision, puis ils vont se dire, bon, ben, mettons, voilà, 4 ans, on a eu ça, ils ont pensé, ouais, correct, l'année prochaine, on va. Puis à un moment donné, il y a juste ça. Une décision de voilà 4 ans, tu pensais, il n'y a pas eu de COVID. Tout a tellement évolué. Là. Mm-hmm. Fait juste recul au début de l'Internet, c'est pas si loin que ça. Là. Fait quoi, une vingtaine d'années, mettons?
Quand je parle avec des jeunes avec qui je travaille, Thomas, entre autres, sur l'heure du midi, puis j'ai dit, moi, je suis né, l'Internet n'était pas là. Je le vois dans sa face qu'ils comprennent pas comment on faisait pour vivre. Là.
Ben oui, comment tu faisais pour aller promener en char avant pour aller chez le monde? Comment ça? Ben là, il n'y a pas de GPS. Non, il n'y a pas de GPS. C'était... Mais moi, je me promène pas de GPS partout. Mais là, exact. Il y en a des plus jeunes qui comprennent pas, là, tu sais. Fait que, ben, j'ai dit, c'est pas compliqué. J'ai dit, on y allait, puis les gens, ils pensaient pas à ça, GPS. Tu sais, tu descends l'autoroute, tu tournes à droite, telle place, mais que tu arrives, tu vois, il y a un gros garage rouge, puis c'est la troisième maison après, là.
Le sud, c'était le fleuve. Le nord, c'était les montagnes. Mm-hmm. L'ouest, c'était Montréal, puis l'est, c'était la Gaspésie.
Puis à ce temps-là, le sud, c'est où tu prends des vacances. Ouais. Non, c'est où tu veux pas aller parce qu'il fait trop frais.
Exact. Mais c'est vrai, on n'a pas besoin de GPS. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais c'est tellement facile pour les politiciens savoir ce que le peuple veut. Mais de voir qu'ils vont à l'encontre de ce que le peuple voudrait, en majorité, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pro-tramway, je vous salue, là, c'est vos affaires. Moi, je respecte votre opinion. Mais bref, je trouvais ça particulier. Puis je le sentais un peu... pas sur la défensive, mais je le sentais un peu perplexe par rapport à ce que je disais. Puis, tu sais, j'ai parlé un peu de son idole. Je pense que c'est un gars qui respectait beaucoup Tipouel, René Lévesque, qui avait déjà dit « Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. Puis, juste dans ses yeux, là, il se sentait pas bien dans cette décision-là d'appuyer le tramway. Mais c'est une impression que j'avais. Peut-être que lui appuyait le tramway à 100%, mais il se sentait pas bien quand je lui disais ce genre d'affaires-là. Mais toi, tu me dis que le tramway passera jamais. On parlait de spéculation. Bon, les gens ont déjà commencé à voir un peu où le tramway allait passer puis s'ils pouvaient pas s'acheter des bâtisses dans ce secteur-là.
Ouais, c'est ça. Ben écoute, puis moi, en tant que tel, personnellement, là, je veux pas que le tramway passe en avant d'aucun de mes immeubles. Ben, ça fait bien trop de bruit, là.
Ouais.
Un, ça vibre, le bruit. Tu veux pas ça, ding, ding, la cloche, parce que quand il arrive à des intersections, faut qu'il avertisse. Là. Pensez pas que c'est différent des autres trains, là.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est un train, là. Que c'est sûr que ça va sonner, là, quand ça va arriver, ces intersections. En ville, je sais pas si tu sais comment il y a une intersection, mais tu vas toujours entendre ça sonner. Le gros son sourd, les vibrations, etc. Fait que tu vas perdre une clientèle avec ça. T'es mieux d'avoir un immeuble qui est peut-être 2 ou 3 rues en arrière. Les gens, tu veux prendre le transport en commun, t'es capable de marcher 5-10 minutes pour t'y rendre. C'est la logique, là. Puis, gros problème qu'il va y avoir, là, c'est que, écoute, le déneigement, là, il est misérable à Québec, là. Il neige, mettons, dimanche, puis ça va aller au mercredi ou jeudi avant qu'il ait déneigé. Toi, tu vas aller avec tes sacs, puis, tu sais, ton petit panier, là, sur des roulettes, là, pour aller faire ton épicerie, puisque tu as besoin de ça pour, supposons, pour, tu sais, si t'es en transport en commun, et tu vas faire comment pour le traîner, là? Écoute, il y a des bandes de neige partout, c'est pas déneigé. Puis, le maire Marchand, si... il veut pousser la population à penser que c'est correct d'avoir un tramway, ben commence par gérer ta neige, mon homme. Là. Parce que là, t'es dans la merde.
Ouais, ça l'intéresse pas.
Ben non, j'aime pas ça.
C'est Pierre-Luc, en plus, qui s'occupe, je perds son nom de famille, vous m'excuserez, mais c'est Pierre-Luc qui s'occupe de la neige à la Ville de Québec, puis il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de voiture. C'est lui qui est celui qui prend des décisions puis qui donne les orientations pour qu'on puisse bien déneiger la ville. Le gars n'a pas de permis de conduire. Il ne voit pas pantoute, en fait, le résultat du travail de ces déneigeurs. Mais on est patenté de même à Québec. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, en fin de semaine, je suis tombé sur les plans pour le dynamitage du Vieux-Québec, parce que le tramway, va falloir qu'il passe sous terre à certains endroits. Et ce que l'étude mentionne, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les bâtisses environnantes lorsqu'on va dynamiter le sous-sol du Vieux-Québec. Ça se peut que ça plie à certains endroits, ça se peut que ça occasionne des problèmes.
Ça serait-tu drôle, hein?
Ça serait pas drôle.
Non, mais imagine, là, je veux dire, ça... on veut pas ça, mais imagine, là, ils font ça, puis une couple de bâtiments historiques, là, ça travaille, puis toi, tu mets à craquer, comment ça va coûter réparer tout ça, sans penser que peut-être il y en a qui pourraient s'effondrer. Là,
ça serait une catastrophe.
Construire une couple de 100 ans, là, tu peux pas savoir la réaction de ce genre de bâtiment-là.
Ce serait une catastrophe, mais où est-ce que je veux en venir avec ça pour ce qui est de la spéculation, les hommes d'affaires puis les femmes d'affaires qui veulent s'acheter des immeubles qui vont passer aux abords du tramway? C'est que le maire marchand, pour financer une partie du fameux tramway puis se trouver des solutions pour rentrer un peu plus d'argent dans les comptes de la Ville de Québec, compte offrir une genre de... Ben, demander en fait une genre de prime tramway. Donc, si vous achetez un immeuble, ben, sur votre compte de taxes, il y aura un surplus parce que vous êtes aux abords du tramway. Mm-hmm. Et ça me fait rire parce que actuellement on essaie de trouver des logements à tout le monde. Que les logements soient le plus abordables possible. Advenant le cas où le propriétaire d'un immeuble de 6 logements se voit taxé d'une surprime sur son compte municipal, pensez-vous sincèrement que c'est lui qui va sortir ça de ses poches?
Non, c'est les transferts directs aux locataires.
Mais où est-ce qu'ils ont la tête, Simon?
Ceux qui vont prendre le transport en commun, généralement, c'est des gens qui sont un peu moins fortunés. Ça peut arriver, en tout cas, une partie d'eux qui sont un peu moins fortunés, qui eux autres n'ont pas le moyen peut-être d'acheter une voiture. Fait qu'ils vont, fin là, ils vont habiter là finalement. Vous allez dire, écoute, je suis au semaine d'habiter plus loin, mais m'acheter un char. Parce que là, je suis rendu, ça me coûte 100$ de plus par mois pour mon logement, pour rester près du tramway. Fait qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui va arriver? Il va juste dire, regarde, just too bad, là. Moi, je m'en vais rester dans le haut de Charlebourg. Puis là, c'est ça qui va arriver. Puis c'est de valeur parce que moi, j'adore la ville de Québec. J'aime l'environnement. Je trouve que c'est le fun, c'est beau, le fleuve, les plaines. Puis on est à côté de la forêt. Tu peux faire plein de choses. Il y a plusieurs activités à faire, les restaurants, puis etc. Bien, ce qui va arriver, c'est pas compliqué. Les gens vont simplement quitter la ville de Québec. Ils vont s'établir dans des coins comme, mettons, Pont-Rouge ou quoi. Puis à ce temps, télétravail, pense à tout ça. Fais juste traverser de l'autre côté à Lévis. Hey, mon gars, tu te promènes là-bas, là.
C'est un autre monde.
Ça construit, là.
Ouais.
OK? Puis pas des petits fonds de short de bâtisses à deux étages, là. Non. Il y a des grosses bâtisses, du gros gabarit. Bien là, les entreprises vont dire, bon, ben écoute, regarde, nous autres, on va aller s'établir à Lévis. Puis tu sais, pour moi, que je veux être dans la région de Québec, je veux profiter des installations de ce qui est le fun, puis le festival d'été, je suis à Québec ou Lévis, ça ne change pas grand-chose. OK? Je profite de tout ça quand même. Mm-hmm. Je vais aller m'établir à Lévis. Je vais aller m'établir là-bas parce que j'ai pas ces contraintes-là d'histoire de tramway qui mettent pas de bon sens. Là, ça va être rendu le dawa dans la ville, puis ils vont dégarnir le centre-ville de leurs bons citoyens. Puis on va se retrouver avec un Saint-Roch, un Saint-Sauveur, puis un Montcalm, puis tout ça, de l'époque où ce que toi, t'as grandi là.
Ouais. Ce qui était une dompe à l'époque, on va se le dire.
Non, mais
c'était une véritable dompe.
Moi, j'avais un scooter, là, je me rappelle, j'allais en ville. Puis quand je traversais, je me couchais en dessous des poignets, quasiment j'espérais pour recevoir une balle perdue.
C'était pas à ce point-là, là, mais c'était, mettons que c'était gris comme quartier. Ouais. Moi, j'ai grandi là pendant des années. Je suis parti de là, j'avais 30 ans, Simon. Mm-hmm. J'ai toujours habité là. J'étais en amour avec le centre-ville de Québec. Mais pour ce qui est des problématiques qu'on avait quand on était jeune, le niveau de pauvreté, le niveau de toxicomanie puis d'alcoolisme qui régnait dans le centre-ville de Québec, c'était assez incroyable. Puis tu sais, moi, je l'ai fait, ce geste-là. Je suis parti de Québec, j'ai acheté une maison à Lévis, petite maison ancestrale, je l'ai renippée, je l'ai vendue un petit peu plus cher. Je suis parti en Beauce parce que je voulais des espaces, je voulais de l'espace pour que mes gars puissent croître, puissent avoir du plaisir avec le terrain et tout ça. C'est légitime en tant que famille d'espérer un jour avoir un terrain pour élever ta famille, puis je l'ai fait. Là, j'ai fait le chemin contraire. Je suis revenu vers Québec, mais j'étais allé un petit peu plus loin, vers Val-Bélair. Mais ce que je me dis, Simon, juste pour en revenir sur la fameuse taxe tramway là, que le maire marchand veut mettre en place, comment peut-il mettre une taxe là sans penser que ça peut nuire au coût du logement?
Ils sont décrochés de la réalité.
Mais je veux dire, c'est supposé d'être des gens qui sont capables de réfléchir, Simon, là.
Moi, juste comme
ça. Je suis pas Einstein, là, mais je suis capable de comprendre que quand tu demandes une charge supplémentaire pour une taxe, c'est clair que l'homme d'affaires ou la femme d'affaires va refiler cette charge-là à ses locataires. C'est clair.
Moi, je vais te poser une question comme ça. Mis à part les apparences publiques, là, quand ils s'en vont... dans le temps des cabanes à sucre, là, ils s'en vont dans une cabane à sucre, là, ils mangent une tire d'érable, puis là, les médias, les photos, même pas à la manger finalement. Là. C'est soit premier ministre du Canada, premier ministre d'une province ou le maire d'une ville. Mis à part ça, quand est-ce que tu les croises, toi, au centre d'achat, puis avec les femmes, leurs enfants, puis tout ça? Puis jamais, là. Ça n'arrivera pas. Ils savent bien trop que tout ce qu'ils font est à l'encontre de la population. Tu sais, moi, je vais te dire une chose, là. Je suis certain à 200% que c'est pas tout le monde qui m'aime. Ça, c'est sûr. Mais si j'ai pas crainte de me promener nulle part, là. Tu sais, si j'arrive quelque part et quelqu'un m'apostrophe, d'après moi, quelqu'un d'autre peut-être dire écoute, ça va se contrebalancer. Mm-hmm. Tu comprends? Mais là, c'est pas ça, là. Eux autres, là, c'est des apparences publiques. Là, ça paraît bien, là. Il y a une petite course, un marathon, là. Lui, je sais qu'il fait du vélo, des affaires de même. Puis là, ben là, whoop, il apparaît là, puis tout est beau. Bon, on fait les photos. OK, parfait. Il rembarque dans la limousine en arrière, puis that's it.
Politique, c'est rendu du showbiz.
C'est ça, sont rendus complètement déconnectés de la réalité. Quand est-ce que ce gars-là, il est parti, puis qu'il y a eu un événement, qu'on parle de festival d'été ou qu'il y a un spectacle un soir au Centre Vidéotron, je sais pas trop, puis au Rempart, au Capital, c'est le vrai monde qui va là, tu comprends? Puis d'arriver, puis dans le parking, aller servir des hot-dogs, jaser, puis ça va, puis jamais, tu vois pas ça. Mm. Ah si, ils vont, ouais, ça dure 2 minutes, photo, première page journal, passe ça 5 minutes à LCN, puis Radio-Can.
Ils consultent jamais la population, mais ils consultent les gens qui sont autour d'eux, qui sont payés pour leur léger le cul.
Mais de consultation, c'est non, des c'est directions ça. Qui leur sont données. Ouais. Il y a quelqu'un en haut. Tu sais, ça se peut pas que dans toutes les villes en même temps. T'as-tu remarqué, l'année passée, je pense, les zones scolaires, il y a eu là, tout d'un coup, tu sais, corridor scolaire. C'est apparu partout aussi là, en ville, là, les petits écriteaux jaunes. Là. Moi, au départ, j'ai dit, ah, tu sais, je trouvais que c'était une bonne idée. Jusqu'à temps que je m'aperçoive que simultanément, partout où tu te promènes, non seulement à Québec, mais au Québec, puis en dehors de ça, même si tu vas ailleurs aux États-Unis, ils ont les mêmes. Fait que là, t'es plus dans le même. Ça, c'est une direction qui est plus haute que la mairie ou le provincial. Tu comprends? Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas. Puis moi, ce que je vois avec ça, cette histoire-là de tramway, c'est de mettre tout le monde à la même place en même temps, puis contrôler la vie des gens, ce qu'on veut pas.
Non. Puis c'est de la guerre à l'auto, là. Ces gens-là, ils veulent sauver l'Antarctique. C'est ce qu'ils disent dans leur tête, malgré que Marchand, ça fait 3-4 fois qu'il s'en va en Europe, là, alors que...
En avion, alors que
le tramway, c'est juste à traverser, là, après Montréal, ça s'appelle... Il y a genre une grosse barrière, ça s'appelle l'Ontario.
Oui, c'est ça.
Eux autres, ils en ont un tramway dans ce secteur-là. Là. Il est juste à côté. Vous avez juste à profiter des bons coups et des mauvais coups de ces endroits-là, puis vous allez peut-être pouvoir importer ça ici.
L'année passée, j'allais voir un spectacle l'été passé là-bas, puis là, nous autres, on voit le tramway, fait que on voulait aller dans une direction, fait que on embarque dans le tramway. C'est pareil, hein? Le train en avant et en arrière, là, tu sais pas quel côté qui va aller.
C'est comme mon Pug que j'avais dans le temps, mon chien Pug.
C'est ça, même affaire.
Fallait que tu te washes la nuit quand il dormait dans ton lit, là. Tu savais pas c'était quel bord, là.
Fait que là, c'est ça, fait que on embarque là-dedans. Hey, pour réaliser que là, nous autres, on avait embarqué par en arrière, finalement, puis il part de l'autre côté. C'était un spectacle de musique rock un peu, fait qu'on avait pris une ou deux bières.
Ou trois.
Peut-être.
Mais comme je te connais, c'était 6.
Ben, ça se peut. Fait qu'en tout cas, là, c'est ça. Fait qu'on débarque, on rembarque dans l'autre tramway, puis là, pour aller dans la bonne direction. Fait que on s'en va rejoindre du monde, là, sont un petit pas sportif puis tout ça. Fait que là, après, on décide qu'on va aller à un autre endroit.
Ouais.
On rembarque dans le tramway en tant que tel, là. Puis le gars, il dit, bon, ça va faire, mettons, 2 piastres. Ben, 2 piastres, on n'a jamais payé pour embarquer là-dedans, là. Fait que on savait pas qu'il fallait payer, tu comprends? On rentrait toujours par la porte d'en l'air parce que toutes les portes, ils rouvrent.
Mm-hmm.
Puis là, ben, tu rentres, là, dans le fond, que les gens, ils payent même pas. Leur droit de passage. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver ici? Parce que le monde, ils rouvriront pas une porte à la fois pour sortir, pour rentrer. Ils rouvrent toutes les portes. Puis là, le principe dans ça, c'est que tu vas donner le service. S'ils veulent le donner, je suis à l'aise avec ça. Mais s'ils comptent le faire payer, puis les gens, ils rentrent pas par la bonne porte sans le savoir, mettons,
ouais.
Il se passe quoi, là? Tu sais, c'est quand même
bonne
fou.
Question.
Ben, c'est ce que je me dis aussi, là. Puis d'après moi, là, si on va avec un principe Toronto, il y a moins de neige qu'ici, je sais pas les problèmes qu'ils ont eu. Je sais qu'à Ottawa, il y a eu des problèmes avec le tramway aussi. Moi, c'est pas le transport en commun, là. Je suis vraiment très à l'aise et pour ça, puis je serais même pour qu'il soit gratuit. Mais j'aime pas les choses qui mettent pas de sens dans la vie. Puis celle-là, là, écoute, ça met aucun sens. Tu peux pas arriver et dire « Ah, ben là, on va déshabiller Paul pour habiller Pierre. » Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va nuire à une grosse partie de la population qui ont affaire à se déplacer en automobile. Puis ces gens-là, ça peut arriver qu'il y ait besoin de le prendre aussi, le transport en commun. Là. Pas ouais. Nécessairement un tramway ou quoi que ce soit. Tu sais, toi, tu restes à Val-Bélair, tu dis « Bon, ben là, je vais aller au festival d'été. Qu'est-ce que tu fais? » Tu prends le transport, tu prends la navette, tu t'en vas là-bas. C'est un autobus, pas le tramway, mais tu peux t'en servir pareil d'une façon ou une autre. Mais moi, ma façon à moi de voir ça, là, demain matin, ils mettent un tramway, là, ils me nuisent tellement, je vais marcher. J'embarquerai jamais dedans. Jamais de la vie, je vais embarquer dans ça. Toi, tu me connais, tu sais que j'embarquerai jamais dedans. Juste parce qu'ils essayent de m'obliger à le faire. Moi, tu vas m'obliger à me faire quelque chose, tu vas m'offrir 100 millions de dollars, je le ferai pas. Tu sais, je suis fait comme ça. Il y a des gens, eux autres, qui vont dire, ah, ben, c'est de l'argent, c'est parfait. Non, ma conscience va faire que je vais être malheureux toute ma vie.
Non, je comprends. Mais c'était juste tantôt pour illustrer la déconnexion entre ce qui devrait être fait puis ce qui est fait. Tu ajoutes une taxe à des entrepreneurs qui, eux autres, ont des logements sans penser nécessairement que tu vas nuire à ton but, c'est-à-dire d'avoir des loyers le moins cher possible. Marchand tire un peu, c'est comme un caillou là, dans l'eau, là, ça, c'est comme ça sert à rien, là. C'est n'importe quoi. Hey, je veux t'amener sur un autre sujet, c'est un article qui a été écrit dans la presse de ce matin. On en avait déjà jasé, je pense que c'était dans Marceau le midi à cette époque-là, mais tu dois certainement te souvenir de ça. On parlait de promesses d'achat bidon, il y avait une femme qui était sur, en fait c'était l'émission numéro 1 là, sur CASA, son nom c'est Christine Girouard. Mm-hmm. Puis elle, elle créait des épisodes de surenchère. Puis les clients de cette femme-là, qui était considérée comme étant la courtier numéro un dans son secteur, les gens trouvaient ça bien bizarre parce qu'il n'y avait pas l'impression qu'elle était tout à fait honnête. Elle était de retour en cours aujourd'hui pour des audiences disciplinaires. Il y a un organisme qui régit là, l'immobilier au Québec, là, c'est l'OACQ, c'est ça?
OACQ, oui.
L'OACQ. Elle, puis tu sais, je regardais les chiffres, là. Je te donne des chiffres bidon comme ça, là. Mais des fois, c'était comme 2000, 4000, 6000 piastres de plus que ce qui était escompté au départ. Tu sais, c'est une histoire particulière, mais des promesses comme ça, c'est la première fois que tu en entends parler?
Ben moi, de cette façon-là...
Des promesses d'achat bidon. Là.
Non, ça, c'est... Écoute, j'ai entendu... moi, j'ai pas connaissance qu'un courtier ici dans la région de Québec fonctionne comme ça.
Okay, je vais te poser la question. Tu pognes un de tes courtiers, faire ça dans ton équipe, tu fais quoi?
Ben, c'est sûr qu'il est plus dans l'équipe, ça prend 2 secondes. Là, ouais. Je veux dire. Puis on va essayer de consulter les clients, voir s'il n'y aurait pas eu des choses anormales qui sont produites dans les dossiers. Mm-hmm. Mais non, c'est sûr, tu peux pas garder ça. Là. Pour même pas la moitié de ça, je garderais même pas le courtier. Là. Ça n'a aucun sens. Puis ça nuit tellement à l'industrie.
Ben oui.
Moi, ce que je me dis, c'est que il y a eu une peine là-dessus. Je suis pas là pour juger le travail de ceux qui jugent, comme on pourrait dire, mais c'est pas assez. Moi, ça serait radié à vie. Là. Il n'y a pas de... Là, je pense là-dedans, il y a une suspension. Puis c'est pas quelqu'un qui a agi maladroitement, qui a fait une erreur. Là. C'est pas ça l'idée. Là. C'est que là, c'est prévu. C'est un scénario qui est fait. Là. Quelqu'un qui... Tu sais, je sais pas, il prend son auto, puis pouf, fait un accident, il tue quelqu'un par erreur. Là. Tu sais, là, ils ont fait un c'est bon, on va l'emporter là, puis là, on va le... C'est ça.
Ça serait un modus operandi. Là.
C'est ça, oui. Okay. Il fonctionne comme ça. Là. Je pense que, si je me trompe pas, là, c'est de la famille qui faisait son chum ou son beau-frère, quelque chose comme ça, qui embarquait à faire des offres concurrentes. Puis là, il y a un vrai acheteur là-dedans que lui, il veut la maison, fait qu'il fait une offre, il fait une surenchère. Puis là, ben finalement, il se trouve à payer la maison 40 000 de plus. Ils sont complètement floués, ces gens-là. Là. Et j'espère que... Ceux qui auront. Ils vont être dédommagés d'une part ou d'une autre. Mm-hmm.
Mais si la courtière est. Le courtier est coupable, je suis un peu comme toi, là, j'espère qu'elle retrouvera plus jamais son permis. Mais moi, c'est les petits montants. On parle de 2, 4 000, 6 000. En bout de ligne, elle, ça, dans ses poches, ça fait pas grand-chose. Là.
Non, c'est pas ça, mais c'est peut-être plus une réputation
exact.
D'avoir vendu à. Moi, je suis vraiment fier parce que nous autres, on a justement un. Par rapport au prix demandé, un taux de réussite qui est plus élevé que la moyenne des courtiers immobiliers. OK? Fait que ça, pour nous autres, c'est un atout quand on rencontre un client. Tu arrives, tu dis, oh, on est toujours négocié, mettons, 10 %, ça paraît pas très bien. Nous autres, nos offres, en moyenne, nos propriétés vendues sont baissées de seulement 2 %. C'est-à-dire qu'on vous donne leur juste, puis en même temps, ben, on risque de vous donner plus d'argent dans votre poche. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est un argument, c'est le fun. Mais là, dans un cas comme ça, elle doit faire miroiter aux clients. Puis il y a des clients, eux autres, qui en veulent, la surenchère. Tu comprends? Okay.
Fait qu'il faut pas voir les chiffres, faut juste voir elle, si elle est coupable, là, elle jouait plus sur sa réputation de personne qui allait constamment en surenchère puis qui allait chercher le meilleur montant possible.
Là, je pense pas que pour elle, vendre une maison, exemple, 10 000 de plus, ça lui donne pas 1 million. Là, pas... Parce que souvent, tu vas séparer en plus la commission avec quelqu'un d'autre.
Ouais.
Fait que... Si tu penses, exemple, à une commission de 5 %, évidemment, il y a les taxes, mais parlons de ce qui reste dans la poche du courtier. Pour 10 000, c'est 500 $. Là, il y a deux courtiers, ouais. Ça fait 250. Mets l'impôt après ça. Écoute, tu sais, je veux dire, t'es-tu à faire une fraude, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, pour 125 $ net? Pas sûr, là. Je sais pas, là. Tu sais, toi, t'es-tu prêt à mettre ta carrière d'animateur radio en jeu pour 125$?
Non, pas du tout.
Mais tu m'as déjà dit que 20$, c'était 20$. Mais ouais, c'était dans un autre sujet.
20$, mais c'était... Ouais, c'était... de toute autre circonstance.
Ça, c'est dans ta vie personnelle, ça.
Ouais, oui, c'est ça. Mon choix, c'est mon choix. Mais c'est ça. Mais t'as raison. Je pense que c'est effectivement ça, Simon. C'est probablement pas sur l'argent, parce que moi, c'était les petits montants. J'étais là, mais voyons donc. Tu sais, pas coupable, là, jusqu'à preuve du contrat.
Même si ça vendrait 40 000 de plus. Tu sais, ça fait 2 000 divisé par 2. Elle aurait 1 000 de son côté, puis on parle d'une commission de 5, là, tu sais.
Puis de que, t'sais, 1 000$ qui risque de faire perdre sa job à vie.
Puis là, t'as l'impôt qui passe, il y a 500$. Il y a personne qui va arriver, là. Je veux dire.
C'est quoi les règles quand on vend sur enchère, Simon? Comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez? Je sais pas, moi, c'est toi qui reçois les promesses d'achat?
Bien, qu'importe la méthode de recevoir, il y a des courtiers qui vont l'envoyer, il y a des courtiers qui vont vouloir la présenter. Il y en a qui veulent attendre la dernière seconde là, avant de dire que là, OK, ils sont prêts parce qu'ils ont une offre, c'est écrite, mais ils vont aller selon le nombre d'offres qu'il y a pour peut-être réenchérir leur offre. OK, ça peut arriver.
OK.
Fait que tu vas voir quelqu'un, mettons qu'il y a une maison de 100 000, ils ont offert 100 000, puis là, whoop, il y a une offre. Ah, on va garder notre 100 000. S'il y a quatre offres, on va offrir 105, mettons. OK? Bon, là, les offres, on va dire que moi, je reçois, il y aurait quatre offres d'achat. J'ai les quatre offres en avant de moi. Toi, tu es le vendeur, je t'appelle. Bonjour Yannick. Bon, écoute, on a reçu des offres d'achat. Voici les conditions de la première offre. Voici les conditions de la deuxième, troisième et quatrième offre. Puis là, à partir de là, ben, c'est sûr qu'il y a évidemment deux offres, exemple, tout, qui sont tout de suite disqualifiées parce qu'elles sont beaucoup moins intéressantes que les autres. Présumons qu'ils sont quand même proches. Des fois, c'est pas nécessairement le prix, là. Tu sais, tu vas arriver, je reviens avec mon exemple, qu'une maison demande 100 000, t'en as un qui est à 109, puis l'autre est à 110. Alors, pour le prix, oui, 110, c'est mieux. Par contre, il n'y a pas d'inspection. Donc, ça enlève une chance que le prix soit révisé. Puis, ils ont acheté sans garantie légale. On la vendait avec une garantie légale. Bien, dans ce cas-là, moi, je vais peut-être dire, vendons 109, t'as la paix. L'autre, on accepte 110. Ils font l'inspection, trouvent quelque chose. Les gouttières, finalement, ils sont finis. Ça va coûter 2 000$ changer gouttière. On baisse le prix de 2 000$, c'est tombé en bas de notre prix. Fait qu'à ce moment-là, t'es bien.
Fait que c'est jamais... Ben, en fait, c'est pas tout le temps l'offre la plus élevée qui l'emporte.
Ben, c'est l'offre la plus intéressante, au fait.
Ouais.
Tu sais, c'est pas toujours l'argent, là. Tu comprends? Tu sais, toi, t'arrives d'un matin, tu te fais offrir un poste avec vraiment un niveau monétaire supérieur à ce que tu fais. Là, tu sais que tu vas arriver là-bas, l'ambiance, c'est pas intéressant, c'est pas le fun, tu recommences à zéro. Puis en plus, ça a l'air, ces compagnies-là, financièrement, sont pas très solides. Ils vont peut-être bien fermer dans 6 mois. Tu dis, écoute, j'aime bien mieux. Tu sais, je suis bien chez Boulevard, j'aime ça, l'ambiance est là, je sais que c'est une compagnie sérieuse. Ils sont bien endossés, puis c'est motivant parce qu'on monte les codes d'écoute.
Mm-hmm.
C'est un peu la même affaire. Fait que des fois, tu vois, c'est l'ensemble de l'offre qui va faire la différence.
OK. Hey, puis je veux être sûr de bien comprendre. Faut que tu ailles plus lentement. OK. Tu peux-tu avoir 2-3 rounds? Mettons qu'il y a une dizaine d'offres, là, tu peux-tu dire, ah, ben là, la première round, c'est on retire ceux qui sont moins intéressants. Après ça, on s'en va à la deuxième round, puis là, il y en a deux qui sont très intéressantes. Est-ce que tu peux revenir en troisième avec les clients en disant, ben là, toi, t'es là, l'autre est là. Êtes-vous capable d'aller encore plus loin? Pouvez-vous faire ça?
Moi, généralement, ce que je vais faire, je vais les présenter quand j'ai la chance de recevoir toutes les offres en avant de moi. Je vais y aller par ordre de prix. Je dis, bon, écoutez, voici la première offre, deuxième, troisième, mettons, il y en a quatre. Puis là, généralement, le prix de la dernière, il est plus intéressant. Fait que c'est sûr qu'exemple, les deux premières, à moins qu'ils soient très proches, les quatre, là, mais généralement, t'en as tant un que lui, il n'a pas compris qu'il y avait une surenchère, il négocie de 20 000. Là. On ne perdra pas de temps avec ça. Là. Fait que là, lui, on l'enlève. T'en as un autre.
OK, lui, il retranche 20 000 au prix initial de la maison.
Ah, je n'envoie toutes les sortes, là. Ouais.
OK, mais ça, tu l'acceptes-tu? T'es pas le choix.
Ah, mais tu la reçois, mais tu l'accepteras pas.
OK.
Bon, il y en a un autre que lui, il s'est dit que le prix demandé, c'était correct, fait qu'il a offert le prix demandé. Puis là, t'en as deux, je reviens avec. Ils ont comme monté de, mettons, 9 puis 10 000 du prix. Ben on regarde, ben c'est sûr que 10 000, c'est mieux que 9, mais quand tu regardes l'ensemble des choses, ben ça va faire une différence. D'avoir des inclus puis des exclus peut-être plus avantageux.
Puis tu peux-tu revenir après?
Ah, tu peux faire une contre-proposition.
Une contre-proposition, ouais. OK.
Tu peux arriver puis prendre une offre qui est plus basse, mais les conditions plus intéressantes, puis essayer de ramener le prix. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire.
Puis ça arrive dans combien de cas, mettons, sur 100? Des contre-propositions?
Ça va dépendre. Ben moi, si je suis capable de le faire pour le client, puis on a le temps, tout ça, c'est sûr. Mais si ton offre qui se distingue le plus, c'est la meilleure au niveau des conditions, t'es peut-être mieux de continuer de travailler avec ça. T'sais, supposons que tu vas prendre les autres, ils ont des belles offres, mais ils n'ont pas beaucoup de mise de fonds. Peut-être qu'au financement, ils vont dire on va envoyer un évaluateur.
Mm-hmm.
tu as l'offre la première, le gars, il paye cash. Tu fais quoi? Tu sais, celle qui a le meilleur prix. Tu peux pas dire, ah, ben, je vais faire une contre-offre. Le gars, s'il refuse, c'est fini. Tu retournes avec tes autres qui n'ont pas beaucoup de mise de fonds. Il y a tellement de facteurs, là. Moi, ça me fait rire parce que il y a plusieurs personnes qui, encore en 2023, disent, ah, oh, moi, je vais vendre ma maison tout seul. Facile. OK, ouais, explique-moi donc voir. Ben là, moi, je peux mettre une pancarte, mettre ça sur Internet. On va attendre que le téléphone sonne. Puis là, je leur pose toujours une question. Bon, vous avez deux offres d'achat. Comment est-ce que vous gérez ça? Là, c'est toujours la mauvaise réponse. Ils me donnent toujours la mauvaise réponse. Là, je leur dis, ah, OK, ben là, à ce temps, je sais. Bon, plutôt qu'on continue, tu sais, je dis.
Non, je comprends, mais tu sais, moi, j'étais de ce type de personne-là qui croyait être capable de vendre une maison. Je ne me rappelle plus trop quelle raison j'avais confié ça à un agent, un courtier d'immeuble. Vous avez changé de nom avec le temps. Avant, c'était agent d'immeuble, c'était bien moins long. Mais là, j'avais confié ça à un courtier. C'était une courtière, en fait. Puis elle était venue chez nous, super sympathique. J'avais jasé avec elle. Puis je me disais, tu sais, ça doit être quand même relax, ce job-là. Puis je te l'ai déjà dit, en 30 jours, on a eu 60 visites. Simon était là deux fois par jour. Puis elle passait quasiment une heure par jour dans son char en face de chez nous. Elle faisait visiter la maison au grand complet. J'aurais capoté vendre ça par moi-même.
Mais moi, souvent, on a des clients qui... Tu sais, on arrive, on a le résultat. « Ah, t'as pas travaillé fort là-dessus? » Là, ils me disent ça. « Ah, pour, ben, ça a pris juste une semaine. » « OK, c'est bon. » « As-tu idée pourquoi ça a pris juste une semaine? » « Ben là, écoute, c'est un produit qui était facile à vendre. » « Ouais, dans des bonnes conditions. » Tu sais, tu t'en vas te faire opérer au cerveau. Là. Le gars, il passera pas, tu sais, quatre ans, tu dis le livre, là, tu comprends-tu? Ouais. Il y a de l'expérience avant, il est allé à l'école, il en a fait d'autres. Bien, ça m'a fait pour nous autres. Si moi, j'arrive, puis ta maison vaut 100 000, puis je la mets à 125, 150, puis là, ça prend 6 mois, 1 an, parce que je t'ai fait baisser 22 fois le prix pour arriver finalement au résultat. Mm-hmm. Ben excuse-moi, mais j'ai fait une mauvaise évaluation de ton produit, donc j'ai peut-être pas les compétences... nécessaire pour évaluer un produit. On parle pas d'un marché qui change.
Puis il y a la mise en marché aussi. Il y a vos contacts qui sont là-dedans. Il y a l'expérience du courtier. T'sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je comprends la réflexion très simple de t'as peu, ça a pris juste une semaine de vendre la maison.
Oui, mais c'est pas qu'on a appelé 10 courtiers qui ont visité des produits similaires dans les 30 jours précédents. Ça, ils le voient pas. T'sais, des fois, c'est ça qui est drôle parce que nous, on n'a pas un métier où est-ce que je débarque chez vous le matin. Il y a un tas de terre à un endroit, je le pèle dans la brouette, je m'en vais le porter, puis je remplis le trou, là, tu sais. Puis là, je recommence ça, puis là, tu arrives après, à la fin de la journée, tu dis, ah, ben, crème, il a baissé d'à peu près un quart, d'après, dans 4 jours, ça va être fini. C'est pas de même, ça marche, ça. Nous, tu le vois pas, là, tu sais, t'as la pancarte en avant de chez vous, il y a pas personne qui t'appelle tous les jours pour te dire, hey, j'ai reçu 4 téléphones aujourd'hui, je pense qu'on devrait peut-être avoir une visite dans le courant de la semaine. C'est pas de même, ça marche pas en tout, là. Nous autres, on fait nos démarches, puis on avance ça en tant que tel. Fait que c'est ça, mais c'est tout un réseau de contacts, puis le réseau, il faut qu'il travaille, puis il va aller chercher le maximum.
Puis quand tu as une maison, puis tu la vends en une semaine, je pense que j'ai perdu ma question, j'avais 3-4 questions en même temps. OK, ouais, c'est ça. Est-ce que, tu sais, comme moi, là, j'ai eu 60 clients en 30 jours qui sont venus chez nous avec le courtier immobilier, puis mais il y en a d'autres qui ont eu comme 10 clients en une semaine puis ils ont vendu la maison. C'est-tu parce que la maison était pas assez chère qu'ils l'ont vendue rapidement? C'est souvent le réflexe des auditeurs quand on parle de ce type de sujet-là. Hey, la maison s'est vendue en 2 jours, la maison s'est vendue en 3 jours. C'est parce que le client n'a pas vendu assez cher?
Le prix, il était bien ciblé à ce moment-là. Tellement de fois que je rencontre des clients, des fois, c'est une question de 20 000 sur, mettons, 400 000. Un 5 % peut faire toute la différence sur la valeur de l'inscription de la maison. Puis là, ben j'ai un dossier, justement, que j'ai suggéré. Bon, on va l'annoncer à 370. Puis là, la personne, elle voulait absolument l'inscrire en haut de 400 000. Là, j'ai oublié ça. Là. On perd trop de clients, on ne vendra pas. Vous allez peut-être avoir des offres, mais vous ne serez pas heureuse des offres qu'on va avoir. On va avoir du 350, 340 parce qu'on va être beaucoup trop cher. J'ai dit 370, c'est le meilleur prix. Elle dit, vous pensez quoi de 400? Moi, ça change. C'est pas moi qui l'achète, la maison. Là. Mm-hmm. Fait que finalement, elle dit, écoutez, je fais confiance, vous m'êtes recommandé, tout ça. On va la mettre à 390. J'ai dit, écoutez, on va le faire comme ça, mais pour obtenir le meilleur pour vous, ça serait vraiment 370 le prix. On fait quoi? Elle dit, ah, je veux 390. Parfait. J'ai 12 visites. Les 12 personnes me disent qu'ils vont faire une offre d'achat. À partir du moment que j'ai une offre d'achat, il y a 7 personnes qui ne veulent plus faire d'offres d'achat. OK? Je me retrouve à avoir finalement 5 offres d'achat sur les 12 visites au lieu de 12 offres d'achat. Ça peut aller, c'est bon. Théoriquement, on devrait vendre en surenchère, mais non, on n'a pas vendu en surenchère. Parce que la maison était listée trop haute, mais très intéressante, puis il n'y avait pas eu beaucoup de produits à ce moment-là. Fait qu'avoir annoncé à 370 au lieu de 390, je tombais dans une braquette qui aurait eu plus de gens qui l'auraient vu. Puis à partir de ce moment-là, plus de gens qui l'auraient vu, les autres auraient dit, « Hey, là, regarde, wow, la maison est cool, elle est hot. » Les 12 autres, les 12 clients total auraient probablement fait une offre, puis moi, je suis persuadé que j'aurais vendu un petit peu plus haut que ce que j'ai vendu la maison.
Tu aurais fini quand même par y donner un genre de 3,90.
Ben 3,85 probablement. Ça a sorti finalement à 3,80, puis c'était 3,75, 3,80, les offres, ils étaient négociés. Mais quand tu appelles, puis là, tu sais, le monde, là, c'est comme quand tu es dans un encan. Là. Hey, là, on est rendu, on a 3 offres. Attends un peu, là. Là, ils continuent de monter le prix. Puis là, un autre, hey, on est rendu avec 5. Puis là, il y en a un, il se dit, hey, écoute, là, il y a 5 offres à la maison. Là. On devrait peut-être en écrire une, c'est parce qu'elle est vraiment intéressante. Là, on rembarque une 6e, puis une 7e, puis etc. Moi, mon feeling, c'est arrêter qu'elle se vende 3,85 peut-être par rapport à tout ça. Mais quand tu arrives, puis tu as 5 offres, puis sont toutes négociées, la maison, là, ce qui a fait qu'elle s'est vendue ce prix-là, c'est que l'inventaire, il était vraiment bas, c'est-à-dire presque nul depuis les derniers mois. Mm-hmm. Il n'y a pas eu d'approvisionnement. Par contre, les gens, ils ont eu un intérêt, sont allés voir la maison, ils la trouvaient chère par rapport à ce que le marché est. Mais si on avait été chercher un prix un peu plus bas, ben là, on serait trouvé à avoir un meilleur rendement en bout de ligne. Là. C'est pas compliqué, là. Fais juste penser quand tu regardes le Boxing Day, là, tu sais. Le monde, là, sont prêts à, surtout aux États-Unis, à aller se casser la gueule, se faire marcher dessus, ouais, pour aller, comme je disais, 200$ une TV. Ils en ont 8 à la maison, par exemple.
Ouais. C'est drôle parce que je jasais avec une de tes adjointes hier, puis on riait parce que on parlait de vos fameux vendus sur le site Internet. Puis elle me disait, mais qu'est-ce que tu penses, Yann, des vendus blancs versus des vendus avec écriture rouge? Ben, je dis, moi, je le mettrais rouge. Là. Elle dit, ben, Simon aussi, il le mettrait rouge. Puis là, elle dit, mais pourquoi? Je sais pas, tu sais, la couleur rouge a quelque chose de significatif. Tu sais, tu peux vendre un produit à 20$, puis les gens vont passer à côté, puis ils le regarderont pas. Mais si tu le mets à 20$, écrit en rouge, ben, les gens vont dire, ah, il y a un rabais, là, on va y aller, tu sais. On est un peu plus attirés par cette couleur-là. Là.
Ben, ils me font toujours, je sais pas pourquoi. Là.
Ils t'ostinent. Ben, c'est la génération de stineux, là.
Ah non, et ça fait plus beau. Je veux pas que ça fasse beau, je veux que ça fasse.
Exact.
Tu sais, c'est pas compliqué, ouais, là. Hey, j'ai vu, justement, c'est drôle, au congrès,
ouais,
il y avait Montcalm, là, en tout cas, quand il est décédé, là, les Anglais, eux autres, ils étaient habillés tout en rouge.
Ouais, les Anglais.
OK, puis là, à un moment donné, le Français, il dit, pourquoi vous êtes tout habillés en rouge? Il dit, on vous voyait partout. Ouais, mais il dit, il y a ça. Il dit, vous me voyez partout. Vu qu'on est en rouge, on semble être partout sur le terrain. Puis il dit, quand on est blessé, il dit, le sang, il paraît pas sur le rouge.
Hey.
OK? Puis là, l'anglais, il demande aux Français, puis il dit, vous autres, pourquoi les culottes brunes?
Mais là, c'est Wolf puis Montcalm qui jasait, là.
Puis vous autres, pourquoi les culottes brunes?
Ouais. Elle est très bonne. Hey,
ça, c'est vrai, là.
Ben OK. Oui, ça se peut.
Oui, c'est ça.
Ça se peut. On rappelle aux auditeurs que ce soir, on parle d'immobilier et d'histoire de guerre, avec l'excellent Simon Laberge d'équipe Laberge via Capital Équipe. Restez là, on fait une courte pause, puis on vient tout de suite.
Marceau, le soir.
102.1.
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Blink 182, one more time. You are to die to. Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Guide Francis Colli, de retour à Québec le 21 mars au Théâtre Capitole. Présenté par le Festival Cigale, venez vous plonger dans son univers électropop avec ses pièces uniques et authentiques. Et profitez de ses plus grands succès, Blow Up et Moon. Découvrez également les chansons de son nouvel album Sunset Blue, le 21 mars prochain au Théâtre Capitole. Kid Francis Colli, billets en vente maintenant sur théâtrecapitole.com. Cette semaine, restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour emporter vos billets.
Au Complexe du Phoenix, retrouvez l'un des rares restos de grillades et fruits de mer ouverts 7 jours sur 7. Des huîtres fraîches, en passant par un steak frites, essayez nos plats en constante évolution par notre excellente équipe de cuisine dirigée par notre chef Jonathan Devin. Réservation phoenixduparvis.com.
Podcast. OK, les filles, je suis prêt pour le podcast.
OK, parfait. Ça va parler de quoi?
Ben, on se racontait des affaires, on va...
Denis, ça va parler de quoi?
Je sais pas, de tout, de rien. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. On saute dans le vide. Sauter avec nous autres.
Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102.1. À écouter en onde tous les mercredis dès 19h et sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et le BLVD.fm.
Une présentation d'Accommodation Chaloux. Avec plus de 1000 sortes de bières de microbrasserie et de grandes marques, c'est chez eux que vous trouverez le plus grand choix au meilleur prix. Saint-Émile, Beauport et au Grand Marché de Québec. AccommodationChaloux.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Voici Catherine Levac qui vous parle de sécurité routière.
Oh non, moi je suis censée parler de macramé.
Sérieux?
Ben non, tu peux déstresser, chaton. Je parle en effet de sécurité routière. Parce que peu importe qu'on soit automobiliste, piéton, conducteur de camion lourd, motocycliste ou même humoriste, on doit tous faire attention sur la route. On est comme une grosse famille. On fait notre possible pour ne pas se faire mal entre nous autres. C'est la base, ça. Garder le monde en vie. J'ai fini, cher. Tu peux faire ton bout.
Moi, ça?
Ben, y a pas mal juste nous deux ici, là. Fait que oui.
OK. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez votre prochaine destination coup de cœur à Québec? Découvrez le restaurant de la distillerie Arsenal. Avec son concept digne des plus grandes villes, un menu succulent et une programmation qui vous en fera voir de toutes les couleurs, le restaurant de la distillerie Arsenal vous fera vivre une expérience unique. Pour passer un moment inoubliable en famille ou entre amis, réservez votre place dès maintenant au distilleriearsenal.com.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Je vous rappelle que ce soir, on est en compagnie de Simon Laberge, simonlaberge.com, courtier immobilier. Comment va l'inventaire à Québec? Est-ce que les maisons à vendre se sont raréfiées? Est-ce que les gens sont un peu hésitants à vendre leur maison? Est-ce que ça se vend relativement rapidement, les maisons à Québec?
Moi, je te dirais que présentement, là, on a à peu près... on a un petit peu plus à vendre que ce qu'on a vu dernièrement, mais un petit peu plus, c'est comme 1 à 2 %.
C'est pas beaucoup, mais c'est bon signe quand même.
Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que moi, je remarque quand on regarde le nombre de maisons. Là, quand je dis maisons, ça inclut condo et les blocs. Là. Mais il y a encore un énorme besoin là-dedans, là, ça, c'est sûr. Là. Principalement, les immeubles à revenus, là, c'est en ci de l'année, c'est là qu'on va obtenir le meilleur prix pour les vendeurs parce que l'acheteur doit envoyer une lettre avant le
mois de décembre.
31 décembre, ouais. Exact. 2 à 4 logements très, très demandés. Même ceux qui ont des plus gros, là, on a une... On a des clients investisseurs. Là, vous avez un 100 logements, un 20 logements.
Ouais.
Vous nous appelez. On a des gens qui cherchent ça.
Mais ton pif là-dessus, là, les 2-4 logements qui sont à vendre, as-tu l'impression que c'est des gens qui s'associent ensemble pour pouvoir avoir chacun leur logement à eux?
Non, c'est non. Plus quelqu'un qui veut... Tu sais, toi, tu veux t'acheter de quoi? Puis tu te dis, garde, j'aime mieux m'acheter un immeuble avec... les revenus vont payer mon hypothèque, les taxes, je n'aurai pas grand-chose à payer.
Moi, bon, je comprends.
Va être chez nous. Là. Tandis que si tu t'achètes une maison, tu payes 100% de la facture. J'aime pas ça.
100% de la facture?
Ah non. C'est toujours un peu plat. Oui. En parlant de produits un peu plus particuliers, je ne sais pas si tu avais remarqué dans notre inventaire, on a une grosse terre agricole là, dans le coin de Château-Richer. Puis ça a à peu près 4 millions de pieds carrés.
Et tabarouette, mais c'est à combien de temps d'ici, Château-Richer? 20 minutes à peu près?
Ouais, mettons, à partir de 15-20 minutes.
Okay, quand c'est moi qui conduis 15-20, quand c'est toi, c'est 7?
Comment ça, tu sais ça?
Ben, je sais pas.
OK. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, là, juste pour revenir avec cette maison-là. Fait que ceux qui ça le tente, là, de, parce que les gens, ils pensent tous que ça va coûter comme, tu sais, 8 millions en affaire de même.
Ouais, mais ben c'est 4 millions de pieds 4 carrés.
4 millions de pieds carrés, puis on est à 899 000. Puis là, t'as une maison là-dessus, t'as un garage, puis, tu sais, je veux dire, tu t'as quelqu'un qui veut chasser sur son propre terrain, t'as des chevreuils, eux autres, ils font de la culture de bleuets, il y a de la forêt, tu peux un érablière, tout ça. T'as un beau petit coin. Tantôt, on parlait de « Ah, tu vas aller t'établir à Lévis pour profiter
du terrain. »
Non, non, je veux dire, tu veux pour profiter des accès de la ville de Québec, le festival d'été, les restaurants, tout ça. Tu t'en vas t'établir là-bas, puis t'es à moins d'un million, t'as 4 millions de pieds carrés. Là. Écoute, hey, t'es retraité dans la vie, tu veux t'amuser, là. Tu t'en vas là, mon gars, t'as tous les projets que tu peux imaginer. C'est là que ça se passe. C'est vraiment un beau spot. Puis en plus, c'est une vue selon saisonnière là, sur le fleuve puis tout ça, là, selon les saisons. Puis c'est vraiment pas loin. Puis je pense qu'à ce prix-là, on a vraiment un produit là, qui bang for the box.
Hey, c'est du stock, puis c'est pas si loin de ça, de Québec. T'sais, le dézonage, là, des fois, c'est compliqué à Québec. Là.
Mais tu pourras pas le dézoner. Ça, c'est agricole. Là, mais je veux dire, t'as déjà une maison
dessus. Mais il y a une maison dessus, c'est ça?
Oui, c'est ça. T'sais, tu peux, à la limite, quelqu'un, il dit ah, ben moi, la maison que là, je l'aime pas. Là, il arrange ça à son goût, là, il peut faire les changements.
Ouais.
C'est pas du patrimoine. Là.
C'est-tu un terrain qui peut, où on peut faire du lotissement?
Non, tu pourras pas dans l'agricole. C'est non. Ça. C'est vraiment. Ben, c'est sûr qu'à ce prix-là, il serait déjà vendu à des promoteurs. Là.
Ouais.
Mais l'idée de ça, c'est que. Quelqu'un qui va arriver, tu sais, toi, demain matin, tu as 50, 60 ans, tu veux prendre ta retraite, tu es en forme. Ça peut faire pour une jeune famille aussi, là, remarque-le, mais tu veux prendre ta retraite, tu t'en vas là, tu fais ton gentleman farmer. Écoute, il y a de quoi à faire, là. Tu peux garder des petits animaux, n'importe quoi. Là.
Ben
tu
oui.
Peux, tu vas t'amuser, tu profites, puis là, t'es dehors. Là,
là y es-tu sur ton site Internet, ce terrain-là?
Oui, c'est ça. C'est 8808, me semble, Royal, à Château-Richer, l'adresse exacte. Puis ceux qui veulent nous contacter là-dessus, on a toujours le numéro de téléphone 418-628-3720.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment un spot le fun parce que t'es à côté de la ville, c'est un prix qui est raisonnable, t'as du terrain en masse, puis tu peux t'amuser, là. Pour moi, je pense que pré-retraité ou qu'une jeune famille qui veut que les enfants, justement, ils voient d'autres choses que le téléphone puis le tablette, là,
ouais.
Je pense que c'est le spot. Là.
C'est un beau coin. Puis du lotissement, est-ce que ça en fait encore à Québec, Simon? Tu as vu où j'habite, là, c'est toi qui m'as vendu, ben, qui m'a aidé à acheter cette maison-là. Et juste à côté, il y a une maison qui semble être une maison ancestrale avec l'équivalent peut-être de deux terrains et demi. Puis la famille qui est là, c'est une famille qui est quand même là depuis longtemps, sont autour de 65-70 ans à peu près, je veux pas les vieillir. Peut-être qu'un jour ils seront prêts à vendre, puis moi je vais être le premier à lever la main là, quand c'est tes voisins qui s'en vont, puis tu veux pas de voisins, tu lèves la main puis tu dis mais je peux peut-être l'acheter aussi. Ce type de terrain-là pourrait être possible au lotissement?
C'est-à-dire ton voisin?
Oui, juste à côté. Ouais.
Ben, il faudrait voir parce que souvent, maintenant, ce qu'ils vont faire, là, quand c'est une maison qui est ancestrale, qui est protégée, ils veulent laisser. Parce que souvent, ces maisons, il y a des grands terrains. Puis là, ils vendent tout, puis ils laissent 3000 pieds de terrain. Puis là, ça fait bizarre. Là. Fait qu'ils veulent laisser un peu un environnement. Fait que ça, c'est.
Parce que où je suis, là, ils ont fait du lotissement. Là. Ils ont pris un gros terrain, ils l'ont séparé en deux, puis ils ont dit bon, toi, tu vas habiter là, puis Marceau va habiter là. Mais l'autre à côté, ça veut dire que c'est aussi c'est possible de faire du lotissement en condition de faire de l'argent dessus.
Oui, c'est ça, mais c'est parce que point que ça, c'est que les terrains maintenant des maisons patrimoniales, souvent, ils sont protégés pour pas que tu puisses le couper trop petit. Fait que si, mettons un exemple, eux, ils disent, bon, ben c'est beau, cette maison-là, on va la garder, mais faut pas que le terrain soit plus petit que, mettons, 15 ou 20 000 pieds carrés. Fait que pour toi, dans ta tête, tu dis, ben oui, mais ils pourraient en faire des terrains, oui, t'as raison. Mais c'est possible que ce lot-là soit protégé. Parce que moi, j'ai déjà vu là, des propriétés ancestrales là, se faire... écoute, il reste plus rien. Tu arrives, tu passes, tu vois ça, il y a une grange cachée en arrière. Il y a trois pieds tout le tour. Là.
Ouais.
Fait que là, tu peux pas admirer, voir la beauté des bâtiments. C'est ce qu'ils veulent faire, les mettre en valeur.
Mm-hmm.
Ça a de la logique, je suis à l'aise avec ça. J'ai déjà vu des clients démolir des maisons.
Sans a priori s'être informé?
Ouais, ben ils sont informés, ils n'ont pas le droit. Mais tu sais, ils ont payé les pénalités. Ça coûte, mettons, 10 000. Là, tu te dis, attends un peu, ça me coûte 10 000, je vais faire 100 000. Je recommence. Ça me coûte 10 000, je vais faire 100 000. Après 2, 3, 4 fois, le gars, il comprend que finalement, il paye 10 000.
OK, je comprends.
OK, fait que ça, on l'a déjà vu. Mais c'est ça, là, maintenant, il protège. Mais il y a des côtés où certaines propriétés comme ça, c'est exagéré. Tu sais, mettons, tu aurais 250 000 pieds de terrain. Il y en aurait 50, 60, ça va faire. Tu vas avoir quand même. Puis on va pouvoir justement faire des logements puis créer des habitations peut-être à sans dire à rabais, là, mais loyers abordables pour les personnes qui sont dans le besoin là-dedans. Mais c'est ça. Puis là, c'est correct qu'ils protègent parce que tu le vois à certains endroits, tu passes sur une belle grosse maison ancestrale, tu te dis, Colin, qu'est-ce qu'il a fait là? Mais c'est pas qu'est-ce qu'il a fait là, c'est ce que l'alentour, qu'est-ce que ça fait là.
Exact.
Fait que tu vois plus pantoute l'architecture.
Oui. Simon Laberge, merci beaucoup pour le podcast de ce soir. Je vais te laisser vaquer à tes occupations. T'as encore des rendez-vous ce soir, tu travailles tard. Quelle heure tu commences, quelle heure tu finis, toi?
Ben en fait, il n'y a pas d'heure nécessairement pour commencer ou finir. Mais moi, c'est sûr que le matin, je fais mes trucs, mais je suis tout le temps texto, téléphone, courriel, en activité avec les gens de mon bureau.
Parce que des fois, tu es levé à 6 heures, là.
Oui, oui, ça c'est...
Puis t'es au bureau jusqu'à 21h, 22h.
Puis des fois, j'arrive à 11h chez nous, là, le soir. OK? Ça arrive.
Mais... C'est une belle vie, hein? C'est facile d'être courtier immobilier.
Ben oui, j'ai été chanceux.
Ben oui! Hey, t'es chanceux, toi, Simon Laberge. Un gros merci d'être passé, puis au plaisir de te rejaser.
Ça marche, salut.
On se laisse là-dessus, les amis, puis on se rejase demain à partir de 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Bye-bye.
Marceau le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
À Boulevard, on aime ça vous faire plaisir. Puis vous faire fêter. Le 29 septembre, on vous invite au Full Moon Party du Cosmos Laurier. Barbecue, DJ jusqu'à 3h du matin, studio de tattoo mobile, petite bouchée gratuite, dance floor et bien plus. Ce mercredi, soyez à l'écoute de Marceau le midi pour gagner votre table VIP. Oui, vous pourriez être une very important person au Full Moon Party. Le Cosmos et Boulevard 102.1, fiers partenaires de vos soirées festives.
Boulevard 102.1.
Miville, ce sont vos spécialistes en climatisation, chauffage et thermopompe depuis plus de 55 ans. En ce moment, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais à l'achat d'une thermopompe Fujitsu. Que ce soit pour une thermopompe murale ou centrale, Fujitsu fabrique les thermopompes les plus efficaces sur le marché. De plus, obtenez jusqu'à 6275 $ de subvention et un prêt sur 10 ans sans intérêt avec Maison Verte. Certaines conditions s'appliquent. Miville, le leader au Québec en climatisation et chauffage. Miville.ca.
Après un an de lock-out, le gouvernement doit comprendre qu'il doit adopter une loi anti-briseur de grève. C'est vital. Continuons de le réclamer, parce que les drames humains du lock-out au port de Québec ne doivent jamais se répéter. Un message des débardeurs de Québec payé par le SCFP.
Podcast. La face cachée du rock avec Pat Langlois.
Salut, c'est Pat Langlois. Entrez avec moi VIP dans mon nouveau podcast pour rencontrer les artisans qui travaillent dans les coulisses du monde du spectacle. Que ce soit le guitar tech de groupe que vous entendez chaque jour à la radio, le booking des bands, la logistique technique d'un spectacle, chaque semaine, on va découvrir quelque chose de nouveau sur cette merveilleuse industrie qui nous fait tous un peu rêver.
La face cachée du rock avec Pat Langlois. En ondes tous les mercredis 19h. Aussi disponible partout sur Spotify, Apple Podcasts,
présenté par ABBA Extermination. Le froid s'amène, mais les bébites restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite, service garanti. ABBAExtermination.ca.
Boulevard. 102.1.
Les 30 septembre et 1er octobre prochains, c'est le Marathon Bénéva de Québec. Vous habitez près du parcours ou vous voulez encourager les coureurs? Prévoyez vos déplacements. Consultez le ville.québec.qc.ca/marathon pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
Vous souhaitez remettre à neuf votre bain rouillé, jauni ou écaillé sans vous ruiner? Faites confiance à Émaillage Québec. Tous les travaux sont exécutés par le propriétaire lui-même qui a réalisé des milliers de projets dans les 15 dernières années. Que ce soit pour les bains en acier, fonte ou acrylique et même vos murs de céramique démodés, Émaillage Québec vous offre un travail rapide, propre et clé en main. Faites une soumission en ligne au maillagequebec.ca et visitez leur page Facebook pour plus d'inspiration.
Jusqu'au 9 octobre chez Normandin, les repas pour enfants sont à seulement 2 $. Et pour chaque plat vendu, on remet 1 $ à la Fondation Normand-Brie et 1 $ au Club des petits-déjeuners. Normandin, ça fait plaisir.
Gagner une cuisine de 75 000 $ n'aura jamais été aussi facile grâce à Armoire PMM. Faites simplement faire vos plans 3D gratuitement et sans engagement. Et vous pourriez gagner une cuisine d'une valeur allant jusqu'à 75 000 $. Visitez armoirepmm.com.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
CV. Marceau le midi, Gravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock, il vole le map blanche.
Boulevard 102.1.
tes sujets dans Rock, ta radio.
Gravel dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter, mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter.
La saison 4 du podcast de Gravel dans le retour est une présentation de vos trois chaloux de la grande région de Québec. Des gens qui nous font confiance depuis des années. Et dès qu'on a décidé de lancer le podcast, ils ont sauté avec nous autres à pieds joints sur l'opportunité. On en est très reconnaissants. C'est des partenaires de longue date. Et les trois chaloux de la grande région de Québec, évidemment, c'est là que vous allez pour ramasser vos provisions. Que ce soit des bières de soif, on en a en grande quantité dans les plus gros réfrigérateurs de la grande région de Québec, mais aussi des milliers et des milliers de bières de microbrasserie à découvrir ou à redécouvrir. Il y a la grande surface du côté de Beauport, il y a l'original du côté de Saint-Émile et il y a celui du Grand Marché de notre amie Émilie qui vient à tous les vendredis partager ses suggestions de brou qui vont souvent de pair avec les produits du Grand Marché. Vous ne voulez pas manquer les nouveaux arrivages? Suivez les trois chaloux sur Facebook, ils ont chacun leur page ou encore accommodationchaloux.com. Cheers!
Gravel. Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 102.1.
Bienvenue dans ce nouveau podcast de Gravel dans le retour. Mon nom est Denis Gravel. Je suis accompagné de ces charmantes demoiselles qui nous accompagnent à tous les jours dans le retour conventionnel.
On est tout le temps là. Toujours.
Pas assez pour croire parce qu'on est de cette aussi.
Clairement.
Véro, bonjour.
Salut.
Audrey, bonjour.
Hello.
C'est une table ronde de Gravel dans le retour aujourd'hui. Et c'est un podcast qui va parler d'une passion qui, normalement, nous anime tous les trois. Et je pense qu'à Québec, on a une relation particulière avec le sujet d'aujourd'hui. On va parler de radio.
Oh mon Dieu!
J'ai beaucoup de questions que j'ai placées au hasard dans ce chapeau et on va essayer de passer à travers le plus grand nombre de questions possibles.
Je suis très curieuse et un peu anxieuse parce qu'à Québec, tu vas avoir des gens qui sont des vrais, de vrais, de vrais passionnés de radio. Tu sais, qui ont écouté toutes les époques, qui connaissent absolument tout.
Oui.
Moi, je suis pas cette personne là, je suis pas tombée dans l'univers de la radio à cause de ça. Fait que je sais pas trop où je vais me situer dans ta table ronde.
Ben regarde, on va y aller avec une question de réchauffement, si vous le voulez bien. On va y aller avec la plus jeune d'entre nous. Il y a trois questions truquées, mais je voulais commencer avec quelque chose qui... appelons ça un warm-up.
C'est bon,
il y a quelques questions qui sont un peu plus coriaces, là, mais celle-là va lancer notre discussion sur le monde merveilleux de la radio.
Raconte-nous le moment où tu es tombé en amour avec la radio.
Hey, j'ai lu ça sur une de mes feuilles il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est dur à dire parce que je me souviens qu'au départ, quand je me suis ramassée, mettons, en arts et technologies des médias à Jonquière, c'était pas pour faire de la radio.
Mm-hmm.
Fait que j'avais pas déjà, mettons, la flamme de ce média-là en dedans. Au contraire, moi, je m'en allais en télé.
Avant d'arriver aux études, il n'y a pas un moment, il n'y a pas... non.
Hey, zéro.
OK.
C'est poche de dire ça
non,
comme ça, là, mais...
Non, parce que je pense que tu seras pas seul autour de la table qui a développé un amour tardif pour la radio. J'ai hâte d'entendre Véro parce que je sais que la radio est arrivée tard dans son choix de carrière.
J'aimais en fait la radio anglophone. On écoutait ça dans le char.
Okay.
Tu sais, Virgin Radio et compagnie. Là. Fait que je me souviens...
La radio satellite.
Oh, ouais.
Non, c'est la radio à Montréal. Puis tu sais, t'avais The Buzz, t'avais Virgin, t'avais Mix 99. Okay, ouais. Fait que c'était la musique des stations anglophones à ce moment-là.
On écoutait ça, mais c'est ça, j'étais pas habituée, mettons, au talk. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à Jonquière un peu par hasard, je savais pas quoi faire. Ma cousine qui est à Sept-Îles m'a dit: ça te tente-tu qu'on aille à Jonquière? Why not Coconut? Je me suis inscrite en télévision, mais pas devant la télé derrière, fait que pour être caméraman, etc. Okay. Puis ma première année là-bas, j'ai rencontré des amis qui, eux, étaient en communication. Puis à un moment donné, à l'hiver de mémoire, eux animaient une émission à CKJ, la radio communautaire, là-bas.
Parce à Jonquière, oui.
Oui, c'était comme le volet grand public en soirée. Là, fait que gratuitement, on se pratiquait tout là. Puis ils m'avaient dit: ça te tente pas de venir faire une émission? On est dans le jus, on manque de monde. Bah, pourquoi pas, tu sais, j'avais rien à faire. Fait que... Puis j'ai vraiment trippé. Au point où j'ai fait la saison avec eux en n'étant même pas en radio. Puis l'année d'après, j'ai fait le switch.
Okay.
J'ai recommencé un deck en radio. Là, j'ai fait mon 3 ans. Puis me voilà.
Véro, fonctionnaire de carrière.
Ah, mais moi,
que j'ai fait déraper dans sa vie parfaite.
Mais tu sais, ta question, c'est quand est-ce qu'on est tombé en amour avec la radio? Moi, je suis tombée en amour avec la musique d'abord et avant tout. Puis je pense, je vous l'ai déjà conté, là, mes parents, les vinyles qu'il y avait chez nous, il n'y avait rien de bien, bien, bien exaltant. Fait que du moment où j'ai eu mon premier petit radio rouge qui me permettait d'enregistrer, ça coïncidait avec le nouveau son de CFX au Saguenay. Moi, de pouvoir consommer de la musique récente, de pouvoir faire mes propres mixtapes, on doit être au tournant de 86, 87, 88 à peu près. Puis c'était vraiment, vraiment ça. C'est ce qui a fait que j'ai essayé de partir une radio à mon école primaire, celle que j'ai fait fermer en faisant jouer du Luc de la Rochelière qui parlait de rêve porno de se tenir la main.
Il n'y a rien de plus controversé au Québec que Luc de la Rochelière. Je l'ai tout le temps dit.
La radio communautaire à laquelle tu as travaillé, nous autres, ça s'appelait Choc.
Choc FM.
FM. La fin de semaine, l'après-midi, j'étais avec mon amie Catherine et on appelait pour faire les demandes spéciales. Sérieux, l'animateur en onde va être tellement content qu'on appelle parce qu'on était les seuls. On était ces personnes-là. Puis j'étais la fatigante qui essayait d'avoir la cote de l'album, pas la toune qui avait joué à la radio. Puis ça, j'avais quoi, 14, 15, 16 ans à peu près. Mais j'avais pas l'intention de faire de la radio. Mais le côté musical de la chose, j'étais une super bonne consommatrice. Si Denis l'a compté, c'est par accident si je suis tombée dans l'univers de la radio. Puis avec le recul... T'sais, moi, toucher à tout, ça a toujours été un fun. C'est ce qui a toujours compliqué mes choix de carrière quand t'es, mettons, au secondaire puis au cégep. Puis moi, le principe de connaissance générale, j'aime ça. Là, je suis un puits de connaissances totalement inutile.
C'est vrai.
La meilleure place pour m'amuser avec ça, puis mon trip de la musique, c'était la radio. Mais j'avais jamais vu ce chemin-là pour moi. Fait que moi, vraiment, mon coup de foudre, mes parents écoutaient Louis Champagne dans le char. J'haïssais ça pour arracher des têtes. Là.
Louis Champagne était l'animateur talk était en vedette au Saguenay.
Ben
c'était le André Arthur du Saguenay, diront plusieurs. Là. C'est un parallèle maladroit, mais en même temps, c'est probablement l'équivalence qui se rapproche le plus. Mais c'était la grand gueule au Saguenay qui, pendant des décennies, a été au sommet des codes d'écoute.
Le seul bout qui nous plaisait quand on était jeunes, c'est quand il imitait le Père Noël au bout du fil puis il avait tout le temps l'air un peu chaud d'ail quand il faisait ses masques.
C'est louche pareil. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je me rappelle. Ça me rappelle un moment où j'ai fait la radio étudiante début secondaire, mais c'était même pas par passion, c'était pour me cacher. C'était comme j'avais le local à moi, c'était pour vrai. Fait que j'ai jamais pensé que ça pouvait peut-être un jour m'amener à là. Toi, Denis?
Toujours été fasciné par la radio depuis que j'ai eu conscience que ça existait. Moi, c'était mon show de magie. T'sais, je voulais comprendre les trucs, je voulais comprendre comment tu pouvais mettre la musique que les gens demandaient en onde, comment tu faisais pour parler. Tout me fascinait de la radio. Je me souviens d'une opportunité que j'ai eue d'aller visiter le studio de CFX FM, qui était la station hot quand on était TQ au Saguenay.
Oui,
tu avais Dan Caron qui travaillait là, Stéphane Stage Lacroix, Jeff Filion travaillait là, Sylvain Tremblay, c'est l'animateur qui était en poste quand je suis allé rendre visite, quand le petit Denis Gravel s'est pointé. J'avais plein de questions à poser. J'étais trop gêné, j'en ai pas posé une seule. Et quand je suis sorti de là, j'avais l'impression que la trail venait de s'ouvrir, puis c'est ça que je voulais faire. Moi aussi, j'enregistrais les tunes préférées qui jouaient à la radio. J'ai commencé à faire ça très, très jeune.
C'est insultant quand Danny tapait des intros.
Ben écoute, c'est de même, ça marche.
J'en ai tellement entendu celle-là. Là.
Mais j'apprenais par cœur la présentation de l'animateur que j'enregistrais sur ma cassette en même temps que la tune. Pour moi, ça faisait partie de la trame que je bâtissais sur la cassette, puis je voyais pas ça comme une nuisance. Je voyais ça comme de la magie. Puis moi, ça a toujours été ça, ma première approche avec la radio. Puis après ça, la radio étudiante, j'ai saisi l'opportunité parce que ça me sortait de la cafétéria. J'haïssais ça, aller dîner à la cafétéria de la polyvalente Charles Gravel. Donc, la raison numéro un, c'était pour fuir le reste de l'humanité. Mais la raison numéro deux, c'est que je voyais une opportunité d'en faire de la radio puis d'essayer de voir comment je me plaçais là-dedans.
T'étais dans le bon gap d'âge pour avoir trippé sur Pump Up the Volume. T'avais-tu trippé là-dessus?
J'ai trippé sur le film Pump Up the Volume. Ouais. J'ai trippé sur le film de Howard Stern aussi. C'est sûr que ça a été des bases de motivation. Rappelez-vous que quand on était petit, il n'y avait pas d'Internet. Hein? On pouvait seulement écouter les stations de radio qui étaient dans notre marché. Puis quand on se promenait à Québec, on écoutait un peu les stations de radio de Québec.
Quand
mais...
tu faisais beau, tu pognais le AM d'ailleurs.
Oui, puis t'as beaucoup de gens de notre génération, c'est des films mettant en vedette des animateurs de radio qui nous ont comme inspiré un peu à plonger dans ce domaine-là. Audrey a fait son tour. Véro, je te demande de piger une question dans le chapeau et on va voir où la discussion nous amène.
Voyons, sont longues tes questions.
Il a mis de l'effort, là.
Avec qui ou à quel endroit aimerais-tu faire de la radio un jour? Moi, j'aimerais beaucoup faire de la radio avec Audrey Pinchot et Denis Gravel.
Ça, c'est têteux, ça. T'en fais déjà.
Sans joke, là. Essaie de me trouver un meilleur contexte, là, pour faire de la radio. À moins d'une catastrophe, là, je changerais zéro niette. Nada.
Mais il n'y a pas du monde que tu connais en radio, que tu as entendu à radio, que tu aurais voulu d'une façon ou d'une autre.
Je suis contente parce qu'on côtoie plein de monde hyper talentueux, puis c'est le fun, c'est une fois de temps en temps. Oups, je me ramasse à faire de la radio avec Dallaire, qui est une icône à